Si vous le voulez bien, dans le premier livre de Samuel, quelques versets que l'on trouve au chapitre 7. Au chapitre 7, et à partir du verset 7, 1 Samuel, chapitre 7, et le verset 7. Gloire à Dieu. Alléluia. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. Alors, à cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait, et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et il l'appela du nom d'Eben-Ézer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah, et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison, et là, il jugeait Israël, et il y bâtit un autel à l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'ensemble nous considérions en particulier le verset 12 dans cette lecture, parce que il y a dans ce verset quelque chose comme une clé spirituelle que le Seigneur donne à tous les croyants, lorsque Samuel prend une pierre, pas un caillou, mais une pierre consistante, lourde, pesante, une pierre qu'il place entre Mitzpah et Shen, et il accompagne ce geste par une parole, et je prie pour que cette parole puisse se graver dans le cœur de chacun d'entre nous. Cette parole est la suivante, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Quel témoignage. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et c'est quelque chose qui doit accompagner la marche chrétienne. J'aimerais ce soir, vous parler du secours de l'Éternel, le secours de Dieu. Parce que nous le savons, notre Dieu est le Dieu secourable. Au point même que le psalmiste dira au psaume 121, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Et la réponse est clairement donnée, « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Alléluia. Donc, c'est tellement essentiel de bien nous remémorer cette vérité spirituelle. Le secours nous viendra toujours de Dieu. Et pour bien, nous en convaincre, Samuel va installer une pierre une pierre. Et dans l'Écriture, à maintes reprises, la pierre symbolise ce qui dure, ce qui subsiste. Ça symbolise l'intemporel, l'inconditionnel, tout ce qui est constant, tout ce qui demeure. Le sable, c'est mouvant, mais la pierre, elle traverse le temps, elle traverse les intempéries. Et c'est sur des tables de pierre que Dieu, de son propre doigt, a gravé sa parole. Alléluia. Parce que sa parole n'est pas culturelle, temporelle, elle n'est pas pour un contexte particulier, sa parole est éternelle. Alors il la grave sur des tables de pierre, et dans le Nouveau Testament, mieux encore, eh bien par l'action du Saint-Esprit, Dieu la grave dans nos cœurs. Amen. Dieu veut marquer profondément mon cœur, ton cœur, par sa parole, par la vérité divine, par les principes spirituels qui demeurent et qui vont nous permettre de sortir vainqueurs de toutes les séquences les plus même mouvementées de notre marche chrétienne. Jusqu'ici, eh bien, l'Éternel nous a secouru. J'aimerais vous lire ce merveilleux passage. C'est le prophète Ésaïe qui en est l'auteur. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Amen. Une pierre comme un signe. Une pierre éprouvée. Une pierre angulaire de prix. Solidement posé. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Gloire à Dieu. Une autre version dit ceci. Une pierre à toute épreuve. C'est clair. Ça parle. Une pierre à toute épreuve. Choisie pour être une pierre d'angle. Une véritable pierre de fondement, celui qui lui fait confiance ne sera pas impatient. Comment ne pas penser, en portant nos regards sur cette pierre dont les vertus nous sont présentées dans ce texte d'Ésaïe, comment ne pas penser à la pierre angulaire qu'est le Seigneur Jésus? Dieu, pour secourir l'humanité, bien sûr, mais ses enfants en particulier, et chacun d'entre eux, Dieu a établi celui qui est la pierre principale, la pierre angulaire, qui résiste aux siècles, qui résiste aux agressions multiples, et qui demeure une pierre choisie. Dieu l'a choisi. Et Dieu a décidé de nous envoyer en Jésus-Christ son programme secourable. Parce que le secours de Dieu est concentré en la personne de Jésus. Alléluia. On va développer cette pensée tout à l'heure, mais déjà, cette image d'une pierre, et je prie pour que cette vérité essentielle, le secours nous vient de l'Éternel, vienne se graver d'une manière indélébile dans le cœur, la mémoire, l'intelligence de chacun d'entre nous. Alléluia. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Quel témoignage. Une parole qui reconnaît un fait objectif, indéniable, c'est que le secours de Dieu a été l'héritage, le partage, le privilège d'Israël. Non seulement en cette circonstance, parce que quand on lit les versets qui précèdent, on s'aperçoit que Israël s'est retrouvé dans un contexte très particulier, privé par les Philistins de l'arche de l'Alliance, complètement dépité, affaibli, fragilisé, et sortant à peine d'un épisode très négatif et très douloureux de son histoire, le peuple d'Israël est en train de vivre un réveil intérieur. Samuel entend le peuple gémir, mais ce sont des gémissements de repentance. Le peuple prend conscience. Le peuple commence à exprimer dans son cœur le désir de revenir au Seigneur. Et Samuel, en entendant ces expressions, dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. » Et le peuple le fait. Le peuple vit un ressaisissement salutaire. Il fait le ménage, il enlève les hauts lieux, les divinités païennes, il nettoie le pays, il le sanctifie, il le purifie et il se dispose à chercher le Seigneur. Il est dit, les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés et ils servirent l'Éternel seul. Il y a un réveil. Je prie le Seigneur pour que nous puissions vivre nous aussi un réveil personnel d'abord, parce que ça commence toujours par l'intérieur de chaque croyant, et puis c'est l'intérieur de l'Église, et puis d'une Église réveillée, il y a une vague qui va visiter la société, un réveil est toujours générateur de bénédictions, de démonstration des miracles du Seigneur, bien réveil, ce texte nous le confirme, un réveil, ça dérange quelqu'un. Parce que ça a dérangé les Philistins. Quand les Philistins ont entendu toutes ces expressions, alors ça les a réveillés aussi. Et leur malveillance, leur intention hostile s'est manifestée, n'a pas tardé à s'exprimer. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés et ils montèrent contre Israël. Ton réveil, mon frère, ma sœur, va déranger quelqu'un. La Bible nous dit, ne soyons pas surpris. Il y a des choses qui ne doivent pas nous surprendre. Lorsque tu prends la décision de progresser, de retrouver une vie de prière, de te remettre à te plonger dans les Saintes Écritures, lorsque tu disposes ton cœur à retrouver le zèle joyeux du service de Dieu, ne sois pas surpris que cela dérange quelqu'un. Et ce quelqu'un, nous le connaissons, c'est l'ennemi de nos âmes, c'est celui qui a lancé un défi au Dieu créateur, c'est l'adversaire, c'est le diable, ça va le déranger. Et donc, dans cette réaction de l'ennemi, le peuple vient auprès de Samuel et lui dit, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu. Samuel invoque le Seigneur, il prend un agneau, il offre un holocauste. Tout ceci, bien sûr, nous parle de l'œuvre de Jésus, son œuvre à Golgotha, sa victoire pleinement remportée. Tout est accompli et pendant que Samuel s'affaire à offrir cet holocauste, les Philistins s'approchent pour attaquer Israël et là, le secours de Dieu intervient. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, parce que Dieu est illimité, hein. Amen. Il a un éventail de moyens secourables à l'infini. Il suffit qu'il dise un mot, un seul, et tu es secouru. Un mot, un seul, et ta montagne disparaît, elle se jette dans la mer. Un mot, un seul, et brusquement, voici que l'impasse s'ouvre devant tes pas. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Gloire à Dieu. Brusquement, il y a eu une manifestation absolument prodigieuse, extranaturelle, et ça a mis une peur, panique dans les rangs des Philistins qui s'enfuient. Alors Israël sort de Mitzpah, poursuit les Philistins et il y a une grande victoire. Les Philistins sont humiliés, Israël récupère les villes perdues. Et c'est là, dans ce contexte-là, que Samuel est inspiré pour mémoriser ce principe spirituel, pour montrer qu'il ne s'agit pas simplement d'un événement historique isolé dans le temps, mais il s'agit d'un principe spirituel. C'est comme ça que Dieu procédera toujours en faveur de ceux qui placent en lui leur confiance. Le psaume 46 dit que le secours de l'Éternel ne manque jamais dans la détresse. Amen. Que ces paroles viennent se graver dans ton cœur. La Bible nous enseigne sur cette réalité du secours de Dieu. D'ailleurs, j'ai envie de dire que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous bénéficions du secours de Dieu. C'est pas vrai ? Parce que le secours de Dieu, il peut se manifester d'une manière très circonstancielle, ponctuelle, dans un événement particulier, mais le secours de Dieu, il est toujours en activité pour le bien du croyant. Le secours de Dieu, c'est sa protection. Combien de fois, à notre propre insu, nous avons été protégés. Amen. Le secours de Dieu est toujours là. Le secours de Dieu, c'est simplement déjà sa présence. Sa présence en nous, sa présence avec nous, gloire à Dieu, c'est le secours de Dieu. Amen. Le secours de Dieu, c'est sa provision. Et il pourrait arriver des situations où vous serez assez dubitatif, vous vous demanderez comment vous allez gérer telle problématique matérielle, peut-être même financière, ou je ne sais pas, mais le secours de Dieu se manifeste par la provision. Dieu pourvoit, et j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur pourvoit. Dieu est le Dieu qui pourvoit. Sa provision est à l'infini. Ne vous inquiétez de rien, a dit le Seigneur Jésus. Alléluia. Il a argumenté en disant que notre Père sait de quoi nous avons besoin. Et bon, il va même ajouter que ce sont les païens. Qui se mettent la pression en disant que mangerons-nous, que boirons-nous, etc. Mais notre Père Céleste sait de quoi nous avons besoin. Il est le Dieu pourvoyeur et il est le Dieu secourable. Jamais il ne laissera son enfant manquer de quoi que ce soit. Le secours de Dieu, c'est aussi la direction. Quand Dieu dirige ta vie, quand Dieu te donne sa sagesse, la révélation de sa volonté pour gérer telle situation quand il nous dirige, c'est le secours de Dieu. Le secours de Dieu est un besoin permanent. On a chanté tout à l'heure, chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Amen. Chaque jour. À chaque heure, j'ai besoin de toi. Nous l'avons chanté dans ma faiblesse immense. Que ferais-je sans toi ? Donc le secours de Dieu, c'est comme l'oxygène pour tes poumons et pour tes cellules. Nous avons besoin du secours de Dieu. Et ceci est salutaire pour nous parce que ça nous maintient dans la dépendance de sa personne. Nous dépendons de lui. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Le secours de Dieu est toujours là. Et bien sûr, ce secours merveilleux peut aussi intervenir dans des circonstances précises. La guérison d'un malade. Nous croyons que Dieu guérit encore les malades. C'est pourquoi nous prions. Le secours de Dieu se manifeste par des interventions. On a tellement de récits bibliques. Une mère qui se fend en deux, c'est le secours de Dieu. Amen. Et une eau impropre et amère devient excellente. C'est le secours de Dieu. Un rocher qui suit le peuple dans le désert pendant 40 ans et qui laisse jaillir de l'eau dès qu'il y a un besoin de soif, c'est le secours de Dieu. C'est le secours de Dieu qui se manifeste d'une façon étonnante, glorieuse, parce que Dieu, le Créateur, est le maître de l'univers et il dit un mot, il utilise les temps, les circonstances, sa souveraineté, son règne parfait se manifeste pour secourir ses enfants. Le secours de Dieu peut prendre de multiples formes. Le secours de Dieu, c'est l'intervention d'un ange. Dans la prison où Pierre, qui a délacé ses chaussures, enlevé sa ceinture et qui a accepté l'idée que demain il allait mourir, eh bien l'ange vient et c'est le secours de Dieu. Et l'ange le réveille et lui dit « Tu as faux, tu ne mourras pas demain, lève-toi, allez, sors, parce que tu as encore un travail à faire. » C'est le secours de Dieu, un ange. Et les portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes, que le Seigneur soit béni, le secours de Dieu, c'est un songe que Gédéon entend de la bouche même des ennemis, et à travers le récit de ce songe, ben Dieu secourt Gédéon, le fortifie, alléluia, et Gédéon s'en va en vainqueur. Le secours de Dieu, c'est un don spirituel pendant un culte. Combien nous avons été souvent encouragés par un don spirituel. Amen. Nous prions pour que, eh bien, tous ces moyens puissent s'exprimer de plus en plus au milieu de nous, dans nos rassemblements, parce que Dieu veut manifester son secours. Le secours de Dieu, bien entendu, se fait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous secourt et il nous donne ce qui nous manque. Il prendra ce qui est à moi, a dit Jésus, et il vous l'annoncera. Alléluia. Quand je vois les premiers apôtres et de quelle manière ils ont été secourus, devant les menaces des Sanhédrins, devant les oppositions politiques même, et devant même les maltraitances, la Bible nous rend ce témoignage rempli du Saint-Esprit. Ils ont parlé, prêché et maintenu le témoignage du nom de Jésus. Alléluia. Mais c'était absolument surnaturel. C'était des hommes comme vous et moi. Sauf que le secours de Dieu leur a été donné par l'assistance du Saint-Esprit. Que personne ce soir ne nourrisse en lui un esprit défaitiste et handicapant. Je n'y arriverai jamais, je ne pourrai pas, je suis trop timide, je suis insuffisant. Mais on est tous insuffisants, sauf que il y a le secours de Dieu. Oui ou non ? Le secours de Dieu, l'assistance merveilleuse du Saint-Esprit qui rend capable l'incapable, qui rend fort le fragile et qui donne des aptitudes inespérées, insoupçonnables pour la gloire du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi je peux dire avec l'apôtre Paul, je peux tout par celui qui me fortifie. C'est le secours de Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Je saisis l'occasion, mes bien-aimés, pour rappeler l'importance fondamentale de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Ceux qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, ayez soif d'être renouvelés chaque jour dans la plénitude du Saint-Esprit. Que le baptême dans le Saint-Esprit ne soit pas comme un certificat d'aptitude que vous avez placardé sur le mur, encadré sous verre, mais que le baptême dans le Saint-Esprit soit une réalité spirituelle, quotidienne. Soyons tous et toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit. Amen. C'est ainsi qu'il faut lire ce verset eh bien, soyez remplis du Saint-Esprit. En fait, dans la racine de ce verset, il faudrait dire, soyez toujours en train de vous remplir du Saint-Esprit. C'est un présent de continuité, de permanence, c'est un renouvellement permanent. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et ceux qui ne le sont pas encore, eh bien, c'est pour vous. Le Seigneur peut vous baptiser dans le Saint-Esprit et je prie pour qu'il en soit ainsi. Et pourquoi pas ce soir, peut-être même à ton retour chez toi, peut-être pendant la nuit, que le Saint-Esprit te visite et que tu sois ainsi investi de son onction qui est secourable. Et son secours va te permettre ce que jusqu'ici tu n'as pas réussi à accomplir. Que Dieu soit béni. Je dirais aussi que le secours de Dieu peut passer par les frères et les sœurs. Amen. J'ai conscience, frères et sœurs, que si je suis là devant vous ce soir, je le dois en très grosse partie à mon Église. C'est dans mon Église que j'ai été chouchouté, éduqué, entouré, fortifié, nourri, soigné, encouragé. Je suis bien conscient des bénédictions multiples que Dieu m'a communiquées à travers les frères et les sœurs. L'apôtre Paul arrive à Icône avec Barnabas. Il prêche l'évangile, ça divise la population entre les pour et les contre. Et il y a une sorte d'hostilité qui monte. Alors Paul et Barnabas s'en vont, ils arrivent à Lystre. À Lystre, ils rencontrent un homme impotent, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché, dit l'Écriture. Et pendant que Paul prêche, eh bien, cet homme écoute, et Paul voit que cet homme a la foi pour être guéri. Alors, il lui adresse une parole de foi, une parole de guérison, et le Seigneur guérit l'impotent. Tout le monde le voit. Alors, enthousiaste et complètement surexcité, la foule proclame des noms de divinités païennes, etc. Paul et Barnabas expliquent les choses. Il se passe de grandes choses. Le bruit se répand et des juifs extrémistes, fondamentalistes d'Antioche et d'Icône viennent à Lystre et ils s'emparent de Paul, il le lapide. Et la Bible nous dit, après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais, et j'aime ce mais, les disciples l'ayant entouré, Paul se leva et il entra dans la ville. Dans cette même ville où il avait subi des sévices, risquant même de perdre la vie, il y retourne. Visiblement, le secours de Dieu lui a été donné. Et ce détail si important, s'il figure dans les Saintes Écritures, c'est qu'il a pour nous certainement une valeur, les disciples l'ayant entouré. L'Église sera toujours pour toi un lieu de secours divin. Et lorsque ton ennemi te susurre la pensée de rester chez toi, les volets fermés, la porte blindée, et de te couper avec la communion fraternelle, discerne derrière ces pensées un piège subtil. Parce que te couper de l'Église te priverait du secours de Dieu. Dans l'état où tu es, quel qu'il soit, viens au rassemblement de l'Église. Non pas comme un devoir religieux, non pas pour mériter le ciel. C'est pas une bonne œuvre que tu fais pour faire pencher la balance vers toi, non. C'est la sagesse de Dieu, c'est la pierre de Samuel. Avec cette vérité. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. C'est dans l'Église que tu vas être secouru. Tu vas recevoir dans l'Église une grâce, une parole, un renouvellement de vie spirituelle. Dans l'Église, tu vas t'apercevoir ce que tu savais, mais parfois le diable nous le fait oublier, que tu n'es pas seul, mais qu'il y a une communion spirituelle. Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est une parenthèse très courte. Lorsque parfois nous visitons des bien-aimés en terre de persécution, ils sont bouleversés rien que par le fait que nous avons fait 3000, 5000, 10000 kilomètres pour aller les voir. Ça les bouleverse, mais en même temps, pour eux, c'est secourable. Ils ont la démonstration bien tangible qu'à des milliers de kilomètres, ils sont dans les prières des frères et des sœurs qui combattent avec eux. C'est leur combat, c'est le même combat. Et ça leur fait un bien immense, parfois même aux larmes. Ils sont bouleversés. La communion fraternelle, c'est plus qu'une joie, plus qu'une, je dirais, un privilège. C'est une clé pour recevoir le secours de Dieu. Dans l'Église, tu seras toujours secouru. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Malgré les imperfections des uns et des autres, surtout les autres, ici ça va, hein, mais tu seras toujours béni, toujours secouru. Tu recevras toujours quelque chose qui va édifier ta foi, restaurer, réparer, apaiser tes émotions, que le Seigneur soit béni. Oui, le secours de Dieu passera aussi à travers l'Église. Je terminerai ce message, frères et sœurs, en mentionnant très rapidement notre part. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus, c'est sa part, il la remplira toujours, mais il y a aussi la nôtre. Et j'aimerais relever simplement l'expression « jusqu'ici ». Parce que ça fait réfléchir jusqu'ici. C'est un témoignage qui montre que durant toutes les années précédentes, jamais Dieu n'a failli jusqu'ici, mais en même temps, ça responsabilise le croyant et implicitement, ça l'invite à demeurer vigilant, parce que si jusqu'ici le Seigneur m'a secouru, qu'en sera-t-il pour demain et après-demain? Alors, je ne vous ai pas lu le début du chapitre 8, mais c'est une confirmation que si nous ne restons pas vigilants, humbles et attachés au Seigneur, ben, le secours divin d'hier n'est pas une garantie automatique pour demain. Il faut demeurer. Parce que dès le chapitre 8, ces mêmes Israélites qui avaient été secourus par Dieu, voyant Samuel vieillissant, ses enfants ne marchant pas à son exemple, viennent faire une demande complètement charnelle, humaine. Ils réclament un roi maintenant. L'Éternel qui les a secourus jusqu'ici ne leur suffit plus. Il demande un roi. Ce que je veux dire par là, c'est que notre vigilance, notre fidélité, notre attachement au Seigneur doivent demeurer chaque jour renouvelés. Gloire à Dieu. Ça va, tu es vigilant? Tu es veille. Veillons. Je veux veiller sur moi-même. Veillons, veillons sur nous, veillons les uns sur les autres, avec affection. Veillons sur la qualité de notre vie spirituelle. Veillons sur nos pensées. Restons vigilants, vigilants. C'est tellement important parce que jusqu'ici, merci Seigneur, mais pour demain, je veux continuer à dépendre de toi jusqu'à ce que tu nous introduises dans ton ciel de gloire. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Jusqu'ici, c'est merveilleux, mais c'est pas suffisant. Pour aujourd'hui, pour demain et après-demain et jusqu'au bout, j'ai besoin et j'aurai toujours besoin du secours de l'Éternel. Deuxième point très rapide, prière, prière, prière. Ce texte que nous avons lu est marqué par une vie de prière. Le peuple prie, le peuple demande à Samuel de prier, et Samuel intercède, et Dieu l'exauce. Il y a un accent très fort qui est placé sur la prière. Il cria à l'Éternel. Et vous lisez les Actes des Apôtres et l'Église première, et vous y trouverez exactement le même témoignage d'une vie de prière intense. Alléluia. Pas appauvri et figé par la religiosité, mais une vie de prière qui invoque le Seigneur avec conviction, avec sincérité et foi. Que Dieu soit béni. Et ma conclusion, le dernier point, notre part, qui ne connaît pas ce verset, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Je terminerai sur ce texte. Il est bon d'attendre. Et je dirai une chose, c'est que le processus qui nous amène au secours de Dieu, c'est en même temps une école de patience. Il est bon d'attendre. Parce que quand ça va mal, alors il y a en nous, par une réaction spontanée, toutes sortes d'expressions affectives, psychologiques, etc. Non, il est bon d'attendre. Apprenons la patience qui nous permet d'attendre le temps de Dieu. Parce que c'est le meilleur, hein ? Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Il est bon d'attendre et en silence. J'allais dire mesdames, mais enfin c'est bon aussi pour les messieurs. Hein. En silence. Parce que là encore, quand les émotions sont exacerbées, ce qui va sortir de notre bouche va certainement influencer et malheureusement souvent pas en bien. Donc, la paix intérieure qui va me donner de bien gérer mes paroles, mes propos, et s'il y a lieu de parler, que ça soit une confession de foi. Parole qui glorifie le Seigneur, une parole qui confirme que nous sommes dans cette position où nous nous appuyons sur le Seigneur. Avant de prier le Seigneur, je vous lis simplement ce merveilleux témoignage du roi David dans un épisode difficile de sa vie. Il étendit sa main d'en haut. Il, c'est le Seigneur, le Dieu secourable. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Amen. Que chacun puisse se l'approprier. Mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Et bien que nous-mêmes, nous puissions suivre l'exemple de David qui a choisi dans des moments critiques de s'appuyer sur l'Éternel son Dieu et de s'attendre à son secours. Est-ce qu'on pourrait se